Dégenrer, une émission pour déranger.
Une émission féministe les 2e et 4e mercredis du mois sur Radio Kaleidoscope 97 FM.
Je continuerai à combattre toutes les formes d'oppression. Racisme, sexisme, homophobie. Personne n'est libre tant que d'autres personnes sont opprimées, brisant le silence. Audrey Lorde.
Donc, bonsoir.
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 Alors, ce soir, vous l'aurez peut-être un peu compris par notre petite introduction. C'est donc une émission autour du racisme. Alors, je dis autour parce que voilà, c'est toujours difficile de trouver un terme très synthétique. Mais voilà, je vais vous expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit pour nous. Alors, déjà, ça peut poser cette idée-là, ça peut poser deux questions. C'est parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire le lien en fait entre le sexisme, donc le système patriarcal dont on vous parle si souvent, le sexisme, le racisme au sens système d'oppression, etc. Et la lutte des classes. Parce que on le verra au travers de cette émission, il s'agit bien de classification. Voilà. Alors, pourquoi ce thème-là ? On pourrait se demander déjà pourquoi dans une émission féministe, on va se pencher spécifiquement sur ces questions-là, dire mais est-ce que c'est vraiment votre champ, le champ sur lequel vous êtes d'habitude ? Et puis, la deuxième question qui pourrait se poser aussi, c'est dire mais alors comment vous pouvez parler de ça, vous, en tant que blanche, occidentale, etc. Alors nous, les espèces de tentatives un peu, de réflexion qu'on a là-dessus, c'est de dire que nous, c'est effectivement dans le cadre d'une émission féministe, parce que pour nous déjà, il y a clairement des mécanismes d'oppression qui sont similaires, que ce soit dans un système d'oppression raciste ou un système d'oppression sexiste. Donc pour essayer d'être un peu plus concrète. Quand on nous dit que parce qu'on est femme, on n'a pas accès à certains emplois, donc c'est une forme de discrimination, et on va retrouver des mêmes mécanismes par rapport à l'origine, à l'origine de la personne, de dire ah bah oui, si t'es maghrébin, tu vas pas trouver facilement du travail en France. Ça correspond à une réalité sociale de discrimination, quoi. Donc c'est un peu voir aussi comment il y a des mécanismes d'oppression qui sont similaires, qui sont utilisés pour mieux discriminer des personnes en fonction d'une classification. Et puis pour nous aussi, je crois qu'il y a vraiment l'idée de dire qu'on voudrait supprimer, je crois, un peu la hiérarchie entre les luttes, parce que donc il y a des luttes féministes, des luttes contre le racisme, etc. Et nous, on n'a pas envie de se dire qu'il y aurait des luttes qui seraient prioritaires et des luttes secondaires. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on nous a souvent bien fait sentir que, par exemple, sur des questions sociales, bah, il fallait d'abord, d'abord se battre pour des égalités sociales en général. Voilà, et que le féminisme, c'était secondaire parce que l'oppression des femmes, voilà, on s'en occuperait après. Et donc nous, on n'a pas envie de reproduire ce schéma-là en se disant bon bah nous, pour nous, voilà, le problème voilà central dans la société actuellement, c'est l'oppression de la classe masculine sur la classe des femmes. Enfin, pour nous, c'est une réalité cette oppression, mais on a, enfin, pour nous, c'est très important d'avoir conscience de toutes les autres oppressions qui voilà qui sont réelles. Et qui sont réelles et qu'en plus qui souvent se juxtaposent parce que en gros voilà c'est en gros si à l'heure actuelle en France on est je sais pas africaine ou même pas forcément africaine ou noire et une femme et ben voilà déjà on se prend de plein fouet toutes sortes de discriminations qui vont se superposer quoi et puis ouais, je crois qu'il y a l'idée aussi pour nous de se dire bah voilà oui bah là des personnes qui organisons régulièrement cette émission dégenrée, eh ben on est blanche, oui ça c'est notre couleur de peau, là il y a pas à nier quoi, c'est clair. Mais voilà pour nous ce serait un peu trop facile de se dire eh ben bon bah voilà puisqu'on est blanche, on est mal placé pour parler de ces sujets-là, alors on n'en parle pas. Enfin, c'est bien. Enfin, pour nous, ce serait encore une fois de plus occulter une réalité et dont on parle déjà peu. Et puis aussi, bah justement, on a besoin de se questionner. Bah, nous, en tant que blanches occidentales, et ben, en quoi on peut générer des oppressions, voilà, en termes, de racisme. Enfin, c'est-à-dire avoir un racisme finalement, ce qu'on appellera peut-être souvent au cours de l'émission, un racisme intégré. C'est-à-dire un racisme non pas volontaire, etc., mais quelque chose qu'on a, bah, voilà, qu'on a intégré depuis notre enfance, de par notre éducation, voilà, parce que, bah, voilà, que ce soit le système scolaire, que ce soit dans nos familles, etc., et ben, il y a énormément de, voilà, de ces petites touches de racisme qui nous sont inculquées très tôt. Alors, je sais pas si j'essaie de trouver des exemples comme ça, mais bah par exemple moi depuis toute gamine on m'a toujours parlé du tiers monde. Alors le tiers monde en général c'est donc les pauvres et alors c'est les gens de couleur, voilà. Donc ça c'est quelque chose qui voilà en soi on se dit c'est dans une idée de solidarité voilà, donc on va considérer qu'il y a des gens plus pauvres que nous. Sauf que tout à coup, tout se mélange en fait, et je crois que voilà, dans ma tête de gamine, me dire ah ben voilà, donc les gens d'une autre couleur que moi, tiens, ils sont plus pauvres. Ah bah pourquoi? Je sais pas, est-ce que c'est parce qu'ils sont moins doués? Est-ce qu'ils sont parce qu'ils sont feignants? Est-ce que c'est, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a plein de choses implicites comme ça qui peuvent, enfin voilà, qui font que bah voilà, on baigne dans une atmosphère de racisme latent comme ça, et donc qu'on l'intègre, et donc forcément à plein de moments, bah on va le reproduire autour de nous. Et voilà, donc ça, on avait vraiment aussi besoin de le questionner, nous, sur les mécanismes que nous-mêmes, on peut reproduire de, voilà, de racisme. Et puis, voilà, pour terminer, bah, je crois que, par tous ces faits-là, en fait, on voit clairement une complémentarité dans ces luttes, donc que ce soit des luttes féministes ou des luttes contre le racisme, c'est-à-dire qui démonte déjà à la base le concept même de race, mais ça, on y reviendra. Donc voilà, pour nous, il y a clairement une complémentarité. Donc il s'agit pas de justement de faire passer une lutte avant l'autre ou quoi. Il s'agit bien de respecter ces luttes-là, donc en ayant connaissance des mécanismes d'oppression que on peut retrouver et de voilà d'avoir cette conscience-là et ben de se dire que on peut être dans une solidarité quoi. Donc c'est un petit peu voilà l'objet de cette émission Et donc ce soir, bah voilà, donc on est plusieurs personnes autour de ce micro. Donc il y a Amélia, deux Hélènes qui se partagent un micro même. Et puis on a invité JN pour l'occasion aussi, voilà, qui nous amènera aussi ses réflexions.
Qui n'est pas blanche, hein, pour préciser, au cas où ce ne serait pas audible dans le monde.
Ouais. Et puis à la technique, on a voilà, aussi deux techniciennes, donc Alizé et Julia. Voilà.
Et en fait, donc, pour revenir sur ces expressions donc, de racisme latent et manifeste, l'expression qui va être utilisée, enfin, il y a deux expressions en gros, donc on a intégré et latent, donc c'est quand c'est discret et que soi-même, souvent, on a du mal à en prendre conscience, justement, en particulier quand on est de la classe dominante. Et le versant le plus connu du racisme, c'est plutôt un racisme manifeste ou patent. Qu'on retrouve par exemple dans les trucs du type discrimination à l'embauche ou alors on va te dire ben non tu peux pas rentrer dans cette boîte où là ça va être vachement plus visible et dans ce cas-là les luttes sont relativement unanimes ou même carrément unanimes officiellement dans les mouvements dits de gauche ou qui se sentent de gauche voire dans les mouvements même pas mal de droite où on va avoir des lois contre le racisme
alors, on pouvait se faire aussi une petite pause musicale qu'on développerait plus tout ce sujet-là après.
Ouais, alors on va parler de tous ces stéréotypes qui nous touchent toutes et tous de près après un morceau musical Les Femmes Oustées, Nosso Grande Noé.
Não precisou, na verdade, de muita escolaridade. Anel no dedo, diploma pra realizar os inventos. Somou os dois, fez a soma, multiplicou os talentos. Propôs uma nova dinâmica, inovações na mecânica, também na metalurgia, na engenharia civil, pra construir a Bahia, pra construir o Brasil. Por que não dizer o mundo nosso em dinheiro foi fundo com entusiasmo e afã, honrando seus compromissos, também prestou os bons serviços nas terras do Tio Sam. Por muitas e muitas razões já deram o que falar, as balações de Osmar são verdadeiras lições. Por muitas e muitas razões já deram o que falar, as balações de Osmar são verdadeiras lições. Mundial, grande arquiteto, diabolou um projeto e aí revolucionou, formando a dupla elétrica, sua cabeça eclética juntou-se com a de Dodô. Mais tarde criaram um trio, ligaram todos os fios, num ritmo assim tão frenético a coisa funcionou. Inventaram um trio elétrico, do qual Moraes é o primeiro cantor. Agora nem mais um minuto devemos pagar um tributo a ele que fez essa obra. Venceu, convenceu os mais céticos. Osmar é o que mata a cobra e mostra o pau elétrico. Por tudo aquilo que é sua vida, seu crio, sua arca. Salve o nosso patriarca, Osmar. Nosso grande Noé. Por tudo aquilo que é sua vida, seu crio, sua arca. Salve o nosso patriarca, Osmar. Nosso grande Noé.
Alors, vous avez écouté Nosso Grande Noé, c'est un morceau des Femmes Oustées, c'est un morceau qu'elles chantent avec des Brésiliennes à propos des luttes des femmes au Brésil. Voilà. Et toi, JN, tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait un peu ce racisme dont on parle tout le temps, de la discrimination à l'embauche, et qu'il y avait aussi d'autres formes de racisme plus cachées.
Ouais, d'ailleurs dans ce truc de racisme officiel, en tout cas défini comme étant du racisme officiel, donc il y a des textes de loi. Hélène, tu connais un petit peu plus que moi, non, je sais pas. Donc une des dernières, donc après celle du voile, il y a donc celle sur comment réécrire l'histoire de la France avec, bien dire que la colonisation a des effets très positifs parce que c'est sauvage. Ils sont devenus d'ailleurs des sauvageons, les descendants des sauvages, quand même on les a civilisés et que c'est très positif, hein, notamment ce point-là. Et donc un des racismes en fait qui est peut-être le plus dur à percevoir, à travailler dessus et que ce soit du côté des blancs et blanches ou du côté des non-blancs et non-blanches. Donc moi, j'ai plutôt tendance à appeler ex-colonisé ou colonisé. Et pour le côté blanc, ben colon. Et ben c'est donc ce qu'on appelle, nous ici, racisme intégré ou latent. On n'est pas les seuls à appeler ça comme ça. Et alors, ce type de racisme est vachement basé sur des stéréotypes qu'on retrouve dans le discours. Le discours, c'est super intéressant, donc c'est typiquement le genre de matière où on exprime ce qu'on, enfin comment on voit le monde sans s'en rendre compte. Et d'ailleurs, c'est la base pas mal de ce qu'utilisent des psys. Alors là-dedans, on a deux types de stéréotypes. On a les stéréotypes négatifs et les stéréotypes positifs. Dans les stéréotypes négatifs, on trouve les noirs paresseux. Alors ça, je cite, hein, comme ça, j'ai pas à mettre de féminin là-dedans. Donc on a les noirs paresseux, les arabes voleurs. Soit dit en passant, donc arabe, c'est une masse indivisible et uniforme qui regroupe l'Arabie, enfin qui va de l'Arabie au Maroc, comme si on parlait en parlant de Belges, en disant que c'est des Français ou des Européens, parce que voilà. Mais bon, voilà. Donc, on a ce côté-là. Et on a le truc qui est plus subtil avec les super potes qu'on a, garçons et filles, qui veulent être super sympas et qui essayent de pas forcément nier l'identité qu'il y a en face. Et donc, en l'occurrence, pour la mienne, ex-colonisée du Maghreb, enfin, en tout cas, héritière d'une histoire de colonisation au Maghreb par mes parents. Et on retrouve des trucs dans le genre. Alors, premier niveau, c'est déjà à ta tête, ou à ton accent, ou à quelque chose dans la tenue vestimentaire, ou le comportement même, on va te demander quasiment en premier lieu de quelle origine t'es. On va rarement te demander en premier si tu fais des études, si tu bosses ou autre. Et alors, quand t'as le malheur de dire que t'es d'une ex-colonie du Maghreb, ah, mais j'ai une copine, ou j'ai mon fils a un copain qui s'appelle Momo, tu ne sais pas pourquoi on te dit ça, mais on te le dit. Momo, moi je suis sûre, il est super sympa, Momo, ouais, d'accord. Et ou alors avec ce truc-là de, ah, mais tu viens à tes soirées, et d'ailleurs, il y aura Fatima, ou je sais pas quel autre prénom prendre qui correspond à un stéréotype de prénom aussi, parce qu'au Maghreb, il n'y a pas que des prénoms, enfin, de ceux que j'arrête pas d'entendre depuis que je suis en France. Et alors, tu sais pas pourquoi est-ce qu'on va absolument te faire rencontrer Fatima. Alors, Fatima, moi, il n'y a aucun problème. Moi, je veux bien te rencontrer quand tu veux. Mais juste, voilà, ouais, je m'appelle Jeanne, tu t'appelles Fatima, mais ça ne veut pas dire qu'on va être copine comme cul et chemise. Et alors, le truc qui suit, deuxième niveau, c'est, ah, mais alors, tu sais faire le couscous, le thé à la menthe, tu sais danser du ventre. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on appelait ça danse du ventre. Moi, je bouge mon cul quand je danse ça, s'il m'arrive de danser ça. Et on ne sait pas toutes au Maghreb danser ça. Tu vois, comme si, enfin, je sais pas, moi, si Hélène, toi, tu disais que tu es arrivée de Bourgogne, on te demanderait rarement si tu sais faire le bœuf bourguignon. Et forcément, on est persuadé que non seulement tu sais le faire, mais qu'en plus, tu te ferais une joie de le faire pour toute. Oui, c'est cool. Merci, les copines. Et aussi, il y a ce truc-là de. Alors, t'es. Ouais.
Ouais, vas-y, Hélène. Quoi? Non mais juste nos micros sont assez mauvais, du coup il faut bien parler droit dans le micro.
Ah merde, parfois en fait j'ai pas parlé.
C'est Radio Kaleidoscope, mais c'est bien. Non mais c'est bien, mais juste, parfois on a quelques petits soucis techniques, mais tout va bien.
Alors je précise, j'ai pas été censurée malgré mon débit, hein, c'est moi qui ne sais pas mettre ma gueule devant le micro.
Donc si on le fait toutes.
Si on le fait toutes, d'accord. Et ah oui, donc alors il y a le truc hyper subtil, donc après le bœuf bourguignon et le couscous, il y a aussi ce truc-là de, par exemple, t'es en train de danser avec plein de copains, de copines ou de copines tout court, et une musique orientale qui est même pas forcément, enfin ça peut très bien être une musique indienne, mais un truc qui sonne dans les gammes orientales arrive à la sono, et tout le monde se retourne vers toi en attendant que tu fasses ta performance. Et le pire dans tout ça, c'est que très facilement, on peut se retrouver à répondre. En tout cas, moi, je me suis souvent retrouvée à répondre à des, enfin, avoir l'impression de répondre à ces, cette espèce d'attente qui est même pas, c'est pas intentionnel, c'est, je pense, pas conscient, et c'est même une marque d'attention souvent de la part des personnes et juste à hésiter à me dire bon alors je bouge mon cul, je ne bouge pas, est-ce que enfin voilà quoi, être un peu gênée par rapport à ça et pas non plus avoir l'occasion d'en parler. Enfin, justement là c'est un petit peu beaucoup l'occasion. Et donc parce que c'est bien connu en Afrique du nord au sud et quel que soit l'endroit où il fait un peu chaud, on a le rythme dans la peau, c'est génétique. Nous, on n'apprend pas à danser. Ça n'est pas culturel au sens de issu d'environnement. Ça n'est pas dû à un apprentissage. C'est bien connu, on a ça dans le sang. Donc, alors, et aussi un autre petit commentaire, et ça c'est vachement pour moi. Quand vous m'invitez, s'il vous plaît, ne m'empêchez pas de boire du vin sous prétexte que je suis censée être musulmane parce que ça me frustre d'avoir à dépenser de l'énergie pour avoir moi aussi un verre de vin. Et aussi, parce que ce truc-là, c'est incroyable. Enfin, le pire, c'est que ça part vraiment d'une bonne attention. Tu vois ce truc-là, ce petit regard de « bon, on sort la bouteille de vin et « ah mais oui, mais toi, t'en bois pas
». Ouais, et moi, ça me fait vachement penser en fait au fait que dès que... quelqu'un repère une couleur de peau ou un faciès qui donnerait une origine, enfin qui décèlerait une origine, que directement t'es coincé dans un stéréotype et que quoi qu'il arrive, on t'y ramène, quoi. Dire que t'es pas quelqu'un qui a une histoire, tu fais pas partie d'un pays avec plein de classes sociales et plein d'histoires et plein de réflexions et un être multiple, c'est toujours on te ramène à des stéréotypes qui sont hyper figés. Ouais, caricaturaux ou dévalorisants. Et c'est clair que moi, je vois par exemple ce que tu disais sur le racisme latent. Moi, toute ma famille de gauche qui se dit antiraciste, voire qui a fait partie d'organisations antiracistes, ils m'ont quand même tous dit que les Kanaks étaient fainéants et les Africains aussi. Mais c'est pas leur faute, c'est parce qu'ils habitent dans des pays, vous savez, où les bananes, ils ont qu'à tendre la main. Non, mais c'est horrible parce que c'est vraiment ce truc-là. Et après, ils ont envie d'avoir plein de potes, machin, mais à chaque fois qu'ils leur parlent, ils parlent pas à des gens, ils parlent à des stéréotypes, quoi. Et c'est terrible, quoi. Et moi-même aussi, hein, je pense qu'on a toutes et tous vraiment intégré ces choses-là. Et c'est terrible, quoi, qu'à une couleur de peau, à un degré de mélanine dans un tissu épidermique, et ben, qu'on demande à quelqu'un si elle sait faire le couscous. C'est quand même hallucinant, quoi.
Et alors, toujours dans le rayon alimentaire, parce que c'est là où s'exprime, en tout cas pour moi, j'en souffre vachement, parce que moi, je suis une mangeuse. Et alors, on se tourne vers toi. Alors, il y a des crêpes au jambon. Et là, moi, je deviens végétarienne. Mais du coup, on se tourne vers moi et on me dit... mais vraiment, enfin, et c'est super sympa. Pour toi, j'ai préparé des crêpes sans porc. Et d'accord. Bah, c'est cool. Enfin, moi, ça m'arrangeait bien sur le moment, mais juste il y a ce truc-là, en fait, même de non reconnaissance d'une démarche politique et avec ce truc de deux poids deux mesures, et je pense qu'on reviendra sur ce principe de deux poids deux mesures, que si enfin ma démarche peut pas être prise comme étant ce qu'elle est et dans des références qui sont identiques à ceux d'un réseau social blanc, mais que là c'est parce que c'est du porc et que forcément je ne mange pas de porc. Alors un autre truc aussi dans l'usage du discours. Et là, en fait, je viens de l'entendre, mais en fait, je l'entends très souvent. Il y a aussi un truc de l'occultation, enfin de cacher, en fait. Par exemple, c'est enfin dans la manière de désigner les personnes de couleur. Et en particulier, on dit avoir des origines. Et alors, avoir des origines. Alors, les origines sont très diversifiées. Tout le monde a des origines, enfin. C'est assez vague comme mot. Et en fait, le fait de dire avoir des origines, pour moi, en fait, c'est une manière de marquer une origine d'excoloniser. Ça marque ce truc-là de. Et en même temps, ça a un côté masse indéfinie. Enfin, en gros, c'est non blanc, quoi, avoir des origines. Et à un autre niveau, où là, c'est un petit peu plus clair, parce que dans les productions culturelles, au sens basique du terme, il y a les blagues aussi qui en disent long sur la manière dont on est censé voir les choses. Et alors moi, récemment, là, j'ai recueilli une blague auprès d'un pote. Alors, sous des airs de rien, quoi, la grosse blague, c'est tu leur dis que tu viens d'Afrique, donc du nord au sud. Hein, et donc là, c'est un pote qui vient d'Afrique du Nord et on lui sort une blague à la noix. Je suis allée, alors c'est où ? En Martinique, à la nage. en un antillais.
Faut que tu nous expliques la blague. Parce que, comme ça,
alors,
moi,
je suis allée à la Martinique à la nage en un an, en même temps, en un entier. C'est
ouais.
moche, super. C'est horrible. Et après, une autre, c'est Dakar, c'est noir de monde.
Voilà, c'est ça. C'est... Bah, ouais, c'est ça, c'est censé être de l'humour. Mais effectivement, l'humour, c'est quand même toujours très révélateur de préjugés que tu peux avoir.
Et un dernier niveau, c'est l'utilisation de, de cette histoire de couleur, par exemple. Et il y a une chose, mais ça, normalement, on devrait pouvoir y revenir si on a le temps, à un niveau peut-être plus théorique. Mais en fait, faut bien garder en tête, enfin, je pense que c'est super important de bien garder en tête que la différence, en fait, la discrimination va en réalité pas tant se baser sur la perception d'une concentration en mélanine dans la peau qui soit réellement différente, mais que c'est plus l'affiliation, enfin, à quel point est-ce qu'on arrive à coller à un préjugé de division des êtres humains en noir, blanc, gris, etc. Donc, l'exemple, c'est que je suis désolée, mais au nord de l'Afrique, et pas qu'au nord, mais en tout cas pour ce que j'en connais, puisque j'ai vécu en Tunisie, il y a aussi des personnes avec une très grosse concentration en mélanine et des traits dits négroïdes, parce que ça, je l'ai entendu. Et ce terme-là, que je trouve horrible, mais bon. Et aussi que, par exemple, quand je vais dans le sud, je suis désolée, mais il y en a vachement plus qui sont plus foncés que moi de peau. Ou encore qu'au nord de l'Afrique, moi, perso, mon père, quand il est arrivé en France, dans les années 70, tout le monde pensait qu'il était allemand. Et puis, j'en passe.
Physiquement parlant, quoi.
Oui. C'est-à-dire que il correspondait physiquement au stéréotype de ce à quoi un boche, parce que ça aussi, à ce niveau-là du racisme, il y en a, devait correspondre.
Et moi, ça me fait penser à quelque chose. J'ai discuté avec un ami. D'ailleurs, qui est vietnamien, et qui me disait, où on débattait son sexisme et comment il émettait toujours des stéréotypes sur les femmes, sur sa misogynie d'ailleurs. Et il m'a dit « Oui, mais tu comprends, c'est comme les noirs qui courent vite. Les femmes ont certaines caractéristiques biologiques. » Et je pense qu'après un petit morceau de musique, on va pouvoir discuter justement de ces parallèles entre sexisme et racisme et qui peuvent parfois nous aider à mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire le sexisme intégré ou le racisme intégré.
Le micro en main, que mon message parvienne. qu'une science saine, que le meilleur pousse à scène. La jante parisienne, peut-être mondaine, babylonienne, contrôler l'antenne, télé, la bande FM. Je sais que mon emblème, ma cause africaine, lui pose problème. Ma couleur, ma colère, ma nature humaine n'est pas vaine. Mon âme reste sereine dans cette jungle urbaine. Ma lutte quotidienne, la parole est reine, donc la parole est mienne.
Vous êtes toujours sur Dégenré, on vient d'écouter un morceau de Kazé qui s'appelle « La parole est mienne » et qui du coup parle justement un peu de la réappropriation de la parole. Et ça me faisait penser à une citation en fait du groupe du 6 novembre, qui est un groupe de lesbiennes issues de l'immigration, de la colonisation, et qui est « Nous ne laisserons pas aux privilégiés de la parole le luxe de notre silence ». Et je la trouve chouette.
Ouais, et moi tout à l'heure je vous avais dit j'avais envie de parler un peu des parallèles entre justement tout ce sexisme intégré et le racisme intégré, parce que moi quand je me suis mis à réfléchir aux questions du racisme, je pense que d'avoir une lecture féministe ça m'aide beaucoup à comprendre, tant que je peux, enfin dans ce que je peux comprendre, hein, dans les limites de ce que je peux comprendre, mais comment en fait toutes ces grilles de lecture, en fait, tout ce qui est toutes mes interactions avec tout le monde, quoi, en fait, est déterminée par le fait que je sois une femme. Et comment aussi, quand t'es dit affiliée au groupe non blanc, comment toutes tes interactions sont aussi filtres, enfin passent par ce filtre-là. Et alors moi, par exemple, il y a quelque chose que je trouve assez frappant, c'est que quand t'es une femme, par exemple, on te coupe quand même vraiment beaucoup plus facilement la parole que quand t'es un homme. Et quand t'es un non-blanc ou une non-blanche, eh ben c'est pareil, quoi. On a tendance à mieux savoir que toi, à ta place, ce que tu devrais faire pour toi-même, d'ailleurs. On te dit, on te coupe la parole facilement, enfin, tous ces genres de choses. Et moi, je trouve ça, par exemple, particulièrement frappant, ce même truc, hein.
Ouais, d'ailleurs, ça... Enfin, tout à l'heure, on en discutait, et c'est vrai que c'est... Enfin, ce truc-là d'infantilisation... En fait, en tout cas, perso, j'ai l'impression de le vivre parfois. Enfin, ça dépend de comment on m'a classée, parce que je parle un français bourgeois, que j'ai pas forcément une dégaine de total plouc ou affilié zup ou je sais pas comment appeler ça, quoi. Et qu'il y a quand même, ouais, ce truc de vas-y, je sais mieux que toi, ou alors toi, de toute façon, tu sais pas, ou tu vois, des trucs un peu comme ça. Mais après, moi, c'est vrai que j'arrive jamais trop à savoir si c'est parce que je suis uniquement une meuf, ou si c'est... Alors, quand c'est face à des meufs, je me dis que c'est peut-être parce que je suis ex-colonisée, ou colonisée, ou...
Ouais. Et puis, pareil, sur ce que tu disais aussi, comment, t'es non-blanche, ou dans la tête de quelqu'un d'origine maghrébine, on va tout de suite te dire « Alors, tu nous fais un couscous ?» Et ben, et quand t'es une femme... Et on veut te faire plaisir, et ben on te dit, ça m'est encore arrivé hier chez le fromager, c'est « Oh, elle a des jolis yeux, elle est mignonne, elle est charmante, et je devrais être contente !» C'est ça, parce que je quand même, le dominant reconnaît, le dominé le flatte, c'est limite, il te tâte pas, c'est génial. Mais ça, voilà, c'est les stéréotypes que toutes les femmes aimeraient que les hommes leur disent qu'elles sont baisables, qu'elles sont un beau morceau, qu'elles ont des jolis yeux, qu'elles sont charmantes. Et comme tous les dominés aimeraient qu'on leur dise, oui, alors, ta culture musulmane, ou alors, oh, quel sportif, ou je sais pas, toutes ces conneries-là qui te mettent direct dans des stéréotypes, quoi.
Et d'ailleurs, du coup, moi, ça me fait penser à ce truc-là d'intériorisation du schéma des dominantes dans la tête de dominé. Et moi, l'exemple que j'ai dans mon vécu, c'est ce truc-là du couscous. On revient toujours à la bouffe. Donc, et là, en fait, je me suis rendu compte que j'ai développé assez récemment une recette de couscous végétarien. Et à la base, moi, j'ai pas appris du tout à cuisiner parce que j'étais une véritable catastrophe qui faisait cramer les œufs, qui sautait au plafond et qui cassait la vaisselle en la lavant. Donc, du coup, j'ai pas trop eu droit aux tâches ménagères de ce genre-là chez ma mère. Et en particulier, donc, j'ai pas appris à cuisiner comme elle. Et elle cuisine aussi le coq au vin et tout, hein, faut bien préciser. Donc, ce qu'il y a, c'est ce truc-là que je me suis rendu compte que j'ai dû demander à ma mère une recette de couscous parce que souvent on m'a demandé, mais vraiment avec ce truc-là de bonne attention, de j'aime trop le couscous et j'ai trop envie d'en manger. Allez, viens, on fait un couscous. Et maintenant à en parler aujourd'hui, en fait, je me rends compte que ouais, quand même, on me l'a sûrement dit vachement plus souvent que à une bourguignonne, par exemple. Voilà, donc moi je trouve ça, ça correspond vachement à ce truc-là d'intériorisation. Et au rayon des intériorisations, comme pour le cas de l'axe de domination qui sévit sur les femmes et lesbiennes, c'est ce truc-là, par exemple, du ménage. Parce que on sait bien, les femmes maghrébines font bien le ménage et elles aiment ça. Alors, petite anecdote, un peu dans le même rayon, c'est l'histoire d'une femme de ménage dans un laboratoire de recherche de l'INPG à Grenoble. Donc cette femme est maghrébine et un coup où elle faisait, où elle jeûnait, on ne s'est pas du tout gêné pour trouver normal qu'elle fasse le café malgré le fait qu'elle aime beaucoup le café, boire le café. Et moi je m'offusque et je dis non mais attends, tu vas pas faire le café, d'abord c'est pas dans ton contrat et ensuite c'est bon quoi, tu jeûnes, c'est bon. Et des deux côtés, en fait, ça a donné elle qui me disait mais non, ça me fait plaisir, parce que c'était son seul moyen de reconnaissance, c'est de soumettre à, enfin, de faire plaisir à ses dominants. Et mais moi j'ai tout à fait ça aussi, hein, je dis pas, c'est pas du tout à des propos accusateurs. Et de l'autre côté, c'est de me dire, donc de la part d'un mec pour qui elle a bossé en Algérie, donc qui est colon et qui a vécu en Algérie. Et donc, il était super sympa de lui trouver sa place en France pour ce boulot. Qui va me dire, non, mais c'est bon, Dalila, ça lui fait plaisir. Hop, j'ai lâché le nom, ça y est. Ça lui fait plaisir. Puis de toute façon, tu sais, les femmes, les Arabes, parce que toujours cette masse difforme, enfin informe, les Arabes, les femmes arabes, elles aiment ça, faire le ménage et faire le café ou faire à bouffer. Oui, c'est ça qu'il m'a dit. Elles ont l'habitude parce que tout le Ramadan, elles font à bouffer à leurs enfants pendant toute la journée alors qu'elles jeûnent. Comme si elles ne pouvaient pas avoir physiologiquement des envies de bouffer comme n'importe quelle autre personne.
Et moi, je sais que, par exemple, sur ce truc de l'intériorisation du discours sexiste et raciste par les femmes et puis par les gens qui sont victimes du racisme, moi, c'est souvent un argument que, par exemple, pour parler du sexisme, que des hommes me donnent pour quand même expliquer que voilà, quand même, des femmes, telle femme est femme au foyer, mais elle fait toutes les tâches ménagères, elle se tape du travail de 8h du matin jusqu'au coucher du soir, elle pense les bobos de tout le monde, elle est pas indépendante, etc. Mais elle aime ça, elle est heureuse, c'est elle qui choisit, c'est comme ça, quoi. Parce que elle affirme ça. Alors, d'une part, il y a tout ce truc-là que, quand même, le discours, toute l'idéologie globale qui est transmise par les médias, par le discours politique, elle est créée par les dominants. Et elle est faite pour les dominants, et entre autres pour rendre invisibles les oppressions, et que tout le monde partage ce discours-là, les dominés et les dominants. C'est-à-dire que notre grille du monde, elle est complètement quand même maîtrisée par les gens qui maîtrisent le discours, c'est-à-dire les hommes blancs ou occidentaux riches, quoi. C'est quand même assez clair. Et ensuite, il y a aussi ce truc-là que quand, par exemple, on est une femme, une manière de reprendre du pouvoir sur sa vie... Finalement, c'est pas de se battre contre les stéréotypes, mais c'est au contraire de tellement bien rentrer dedans que finalement on a quelques privilèges, c'est-à-dire que par exemple une nana qui voilà aura pas décidé de sortir de son rôle et dire non je vais pas bosser comme une esclave pour toute ma famille, et ben va bosser pour toute sa famille peut-être comme une esclave et elle va sûrement souffrir par moment, mais quelque part elle va avoir de la reconnaissance par ses enfants, par son mari, elle va être aimée par tout le monde, par la société, etc. Et il y a un certain confort finalement, un confort vraiment très précaire, c'est-à-dire qu'elle reste toujours dans sa position de dominée, quoi. Mais quelque part finalement c'est une façon aussi de reprendre du pouvoir, et c'est pas et pour moi enfin que le fait que des dominés finalement disent qu'ils veulent enfin qu'ils disent oui voilà moi c'est mon choix finalement de coller aux stéréotypes et d'être dans ma position de dominé, c'est aussi une façon finalement de reprendre du pouvoir quand aussi ils n'ont pas forcément les moyens de contester leur position sociale, quoi.
Alors voilà, enfin tout ça c'est je pense enfin très complexe en fait, et je crois qu'on cherche pas par là non plus à dire que à dénigrer soit le statut de femme au foyer ou le statut de femme de ménage ou d'ouvrier, parce que dans les exemples aussi dont en fait en préparant cette émission, les exemples qui nous revenaient en mémoire aussi, c'est par exemple de se dire, enfin d'ailleurs il y a des expressions qui disent fort comme un turc, costaud comme un voilà, ou je sais pas, ou travailleur comme polak. Un polonais, enfin polac, ouais, ça évoque un truc de force et tout ça, du coup voilà, on pourrait se dire que les Polonais ou les Turcs, ça leur dit bien de se défoncer au travail parce qu'ils aiment les travaux physiques et que bon, c'est pas grave effectivement s'ils risquent de se faire écraser par la machine ou sous le poids de je sais pas quoi, puisque de toute façon ils aiment ça. Et à un moment ça paraît vraiment des préjugés énormes, et à un moment quand même de se questionner qui est-ce qui a envie de risquer sa vie à faire des travaux, même pas pour lui, mais pour le compte d'une entreprise qui se fait du fric sur son dos, etc. Donc nous, c'est ce système-là qu'on a envie de questionner, et pas un jugement sur la personne qui va effectuer ce type d'activité, ce type de travail. D'autant plus que après, enfin, on peut pas juger non plus sur quelle est réellement sa part de choix et sa part un peu d'obligation sociale ou de comment elle peut simplement se faire reconnaître dans notre société. Donc tout ça, c'est toujours complexe. Mais en tout cas, nous, ce qui nous semble important à dénoncer, c'est bien ce système-là d'oppression, domination, d'exploitation.
Exploitation.
Voilà, parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans tous les exemples que là on a donnés, c'est-à-dire que on est au service des autres par sa force de travail, etc. On est au service des autres, et du coup, soi-même, finalement, ça passe après, quoi. Et donc ça, c'est clairement un mécanisme d'oppression, quoi.
Et d'ailleurs, peut-être on va y revenir juste après la pause. Ce qui est intéressant, c'est que ce discours-là, où il y a vraiment une imbrication cohérente des différents stéréotypes et des discours qu'on peut appeler essentialistes dans la justification d'exploitation des uns une par les autres. Et on y reviendra plus tard.
Y tú eres una marginal. transgredes la realidad. Y si tus metas quieres alcanzar, nuevos valores tendrás que inventar para no ser marginal. Esta horrible sociedad, y una voz te dice: no te dejes arrastrar, no lo dudes. Eres una marginal. Cuando conforme tú no te sientes, cuando tus sueños no puedas tocar, cuando no crees mucho en discursos ni en diálogo nacional, es que eres. Eres una marginal.
Eres una marginal.
Nunca lo puedes negar. La realidad, y si tus metas quieres alcanzar, nuevos valores tendrás que inventar para no ser marginal.
Morceau d'Ochi Curiel, qui est une chanteuse dominicaine et qui fait, enfin du coup celui-là s'appelle Marginal et qui écrit pas mal des chansons en rapport au racisme, au sexisme, à la lesbophobie. Voilà, et du coup sinon on voulait reprendre donc dans cette émission dégenrée autour du racisme sur les questions d'idéologie raciste et je pense aussi comme toute... les formes de domination, et ben un des systèmes d'oppression, c'est toujours de naturaliser en fait les groupes opprimés, c'est-à-dire que les groupes, que ce soit les femmes, les enfants, du coup les personnes non blanches, etc., c'est toujours aussi de justifier la domination en disant qu'il y a des choses qui font partie, enfin déjà de manière naturelle, essentielle d'elles, et aussi que en gros, souvent, c'est que les hommes blancs seraient plus proches de, du coup, seraient plus cultivés, on va dire, plus culturels, et que les femmes et les personnes non blanches seraient plus proches de la nature, des animaux. Enfin, ça, c'est un truc qui se retrouve beaucoup dans l'idéologie, et on peut faire des parallèles. Et je crois que tu voulais un peu parler du livre de Colette Guillaumin à ce propos, JN.
Ouais, en fait, un bouquin, en fait, qui raconte bien comment, enfin en tout cas moi je trouve qu'il raconte bien comment comment le concept de race peut être créé et que et aussi de faire le qui fait vachement bien je trouve le parallèle entre l'axe de domination pénis-vulve et l'axe de domination de blanc à pas blanc et en fait donc c'est l'idéologie raciste de Colette Guillaumin. Et moi, en tout cas, à ce niveau-là, il y a en particulier une idée que j'ai un petit peu dit tout à l'heure, qui me paraît hyper, hyper importante à retenir, c'est, ou des idées en tout cas, c'est déjà que le ne serait-ce que le fait d'utiliser le terme de racisme, c'est reconnaître la notion de race, c'est-à-dire la considérer comme étant vraie. Et en fait, le problème de la race, c'est que c'est, comme pour le genre, une construction sociale. Et d'ailleurs, ça, on retrouve bien que ce truc-là, en fait, est pas justement, qu'il n'y a pas une distinguabilité évidente entre les dites races, telles qu'on utilise ce terme-là dans le mainstream, dans la pensée dominante, je ne sais pas comment dire. C'est que un truc que Colette Guillaumin a dit et dont je ne retrouve pas la page qui est de dire que les différences physiques ne sont discriminantes que si ne sont discriminantes que si en amont, dire avant même cette différence qu'on aurait perçue, il y a une différence de pouvoir et de groupe social, enfin de classe sociale.
Ouais, et on voit par exemple comment en fait certaines différences physiques sont prises en compte, par exemple la différence biologique entre soi-disant un homme, enfin un mâle et une femelle, c'est une différence biologique qui est tout le temps qui est censée expliquer une différence de nature, mais c'est parce qu'il y a une oppression, par exemple si les grands oppressaient les petits ou si les petits oppressaient les grands ou enfin ce genre de choses, la taille physique aurait une serait un détail discriminant, enfin un détail biologique discriminant. Et aussi, enfin un petit rappel, c'est que les races n'existent pas, quoi. Il y a pas déjà en biologie on dit à peine qu'il y a une race humaine.
Il y a pas en fait en biologie dans le discours académique bien pensant qui est souvent du côté raciste latent d'ailleurs, enfin plutôt tendance PS. On va dire qu'il y a une espèce humaine, donc où là on va prendre à l'appui un génome humain et on va dire qu'on fait bien distinction entre le génome humain et le génome chimpanzé, même s'il va y avoir 98% du génome qui va être exactement le même, quoi.
Ouais, et donc entre les humains, il n'y a pas de race, quoi. Et que les concepts de race sont vraiment extrêmement liés à des histoires. Et à des histoires de groupes qui dominent et qui sont dominés et d'oppression. Et vraiment, tout ce qui est relié au concept de race, c'est vraiment des histoires de pouvoir et d'oppression et d'exploitation, quoi.
Et une chose d'ailleurs qu'on retrouve bien en tout cas dont nous parle bien Colette Guillaumin, c'est justement dans cette idée d'histoire, c'est que le racisme tel qu'on le connaît dans son acceptation de maintenant, quoi, en Occident, c'est en fait quelque chose qui est vachement lié à l'histoire du capitalisme, de l'industrialisation et du capitalisme. Et alors une petite anecdote qui moi m'a marquée et que je trouve intéressante et mnémotechniquement assez simple à retenir, c'est que le terme de nègre, par exemple, eh ben à la base ça ne désigne pas des personnes qui seraient plus foncées de peau que des colons, mais plutôt esclaves, en fait. Ça voulait dire esclaves à la base, sachant que les premiers esclaves n'étaient pas du tout issus d'Afrique subsaharienne, mais que c'était des personnes qui étaient blanches, enfin, issues d'Europe, et que ce n'est qu'à partir du moment où les plantations en fait, des ressources, en fait, étaient volées, ou je sais pas comment dire, puiser dans d'autres zones géographiques, donc les colonies, que là on s'est dit que c'était vachement plus pratique d'importer une main d'œuvre, enfin des esclaves venus d'ailleurs, ou carrément comme pour les Antilles, il me semble bien que c'est ça l'histoire, enfin Mélène t'es peut-être plus au courant, qu'on a déporté des gens d'Afrique subsaharienne et qu'on les a posés dans des plantations avec donc des personnes qui étaient issues de différentes zones géographiques, mais juste que bon, ils étaient noirs, donc ils pouvaient se comprendre.
Et donc nous, ce qu'on avait un peu envie de dire aussi à Dégenrer, c'est que justement cette idéologie naturaliste ou essentialiste, ça fait que quand dans notre vie de tous les jours, c'est quand on voit quelqu'un et qu'il aurait une caractéristique d'avoir un sexe femelle ou une peau plus bronzée ou qu'on se dit que c'est issu d'une zone géographique différente, et ben déjà ça lui colle un stéréotype, c'est-à-dire que les femmes auraient les mêmes caractéristiques toutes entre elles, nous, la femme, ou alors l'Africain, le Noir, l'Arabe. On serait toutes et tous pareils, on aurait un espèce de stéréotype global. Et le fait de dire qu'il y a des différences de nature entre les blancs et les non-blancs, et les femmes et les hommes, c'est une façon de gommer le fait qu'il y a une différence de conditions sociales, d'existence, quoi, et vraiment des grosses inégalités. Et aussi des grosses différences d'histoire aussi. Et c'est une façon de ne pas se questionner sur justement quel rapport historique on a entre groupes sociaux, quoi.
Oui, et peut-être, c'est pour appuyer encore là-dessus, c'est pas que pour gommer, c'est pour justifier. Enfin, c'est bien normal que les hommes blancs, en gros, que les hommes blancs exploitent des gens d'autres couleurs de peau ou des gens d'autres sexes que, en l'occurrence, sexe féminin, sexe biologique féminin, puisque ces personnes-là ont des caractéristiques qui les amènent à être exploitées, voire à y prendre du plaisir. Donc, on parle de pouvoir, mais enfin voilà, moi c'est aussi des questions de profit, quoi. D'où sort tout ça? D'une idée de quel profit on pourrait tirer de cette catégorisation en classe, quoi.
Ouais, puis dans ces trucs de naturalisation, on peut voir aussi que l'idéologie raciste ou sexiste ou homophobe, en dernier recours, elle fait toujours appel à la science pour appuyer ces idées d'inégalité naturelle. Ça marche hyper bien pour les gens, mais ça peut être d'avoir cherché un gène de la paresse chez les Noirs, ou alors le fameux gène de l'homosexualité, ou en ce moment, ce qui est hyper à la mode, c'est moins la génétique, mais plutôt la neurobiologie, et ça va être d'expliquer que les femmes et les hommes ont des cerveaux différents, donc c'est pour ça que les femmes n'ont pas le sens de l'orientation et que les hommes ne savent pas chercher un truc dans le frigo. C'est le titre d'un best-seller de ce style, d'ailleurs, je crois. Et où ça marche vachement, parce que une fois que des scientifiques ont dit, je pense chez les gens, cette idéologie de dire, mais en fait les luttes sociales elles servent à rien, parce que de toute façon on ne peut pas y changer, parce que regardez, en fait c'est naturel, quoi, c'est inscrit dans les gènes ou dans le cerveau, donc c'est quoi toutes ces luttes, ça sert à rien, c'est comme ça, et faut plutôt le prendre bien, les gens sont complémentaires, donc les blancs dirigeront, les noirs exécuteront des grosses tâches, les femmes s'occupent des enfants parce qu'elles ont l'instinct maternel. Et les hommes sont forts. Et du coup, tout est bien, et c'est l'ordre de la nature. Et à chaque fois aussi, c'est de se servir des animaux, alors qu'en général, c'est des pures conneries, comme pour justifier l'hétérosexualité. C'est naturel, regarder les animaux, alors que les animaux, ils ont des sexualités diverses. Et c'est vraiment toujours ce truc de recourir à la science qui a vraiment un gros poids là-dedans.
Ouais, c'est de recourir à la science, et puis surtout, c'est de sélectionner les masses d'informations, quoi. Et alors le problème aussi dans cette essentialisation, cette essentialisation, elle a aussi des conséquences même dans des milieux éclairés, on va dire, voire militants. Et en particulier, ça peut avoir tendance justement à appliquer la loi de justement ce que j'appelais tout à l'heure du deux poids deux mesures. Alors là, en l'occurrence, je me suis pas beaucoup cassé la tête. J'ai pris une revue limite au hasard, enfin pas complètement, mais je suis tombée dessus. Et à peine j'ai lu deux petites lignes, je me suis dit un bon exemple de poids de mesure. Et donc avec l'expression d'un racisme latent. Donc c'est une revue plutôt gay, et gay G-A-Y. Et donc l'article, qui se veut vraiment chouette quand même à la base, donc il parle de des problèmes des gays au Maroc, donc ils se font grave opprimés, mais vraiment ce truc-là d'être interpellé, battu, arrêté, l'horreur, quoi. Et là, dans cet article, on nous raconte là je vais citer. Donc aux interpellations abusives, donc ça c'est le journaliste qui écrit ça. Aux interpellations abusives, dans la rue s'ajoute la délation. D'après les témoignages de certains gays français. Donc parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au Maghreb, comme en France, la structure des villes est clairement coloniale. Donc on a au centre les riches associés à blancs, donc même si on n'est pas forcément blanc là-dedans, et à la périphérie les pas blancs et pas blanches, donc les pauvres quoi. Et au Maroc, ben c'est en gros pareil. Il y a vraiment des quartiers colons. Et en Tunisie, c'est pareil. Et en Algérie, c'est limite pareil, sauf qu'il y a eu d'autres embrouilles entre temps. Donc d'après les témoignages de certains gays français, les concierges d'immeubles habités par des étrangers. Donc là, dans ce cas-là, étrangers fait référence à occidentaux, sont priés de signaler les allées et venues de Marocains dans les logements. Donc uniquement des Marocains. Et donc, il y a un gars qui s'appelle Olivier, qui habite dans un immeuble colon, quoi, au Maroc. Et il dit, c'est sordide, c'est la chasse aux homos. D'accord ? Donc, fermez les guillemets. Hein. Même s'il dénonce ses atteintes aux droits de la personne, ce Français qui voyage régulièrement au Maroc donc, concède toutefois que des Occidentaux, français notamment, ont exporté leurs mœurs de façon très voyante. Sans tenir compte des coutumes locales, il y a des abus. Alors, au niveau de l'analyse, donc cette personne, donc ce gars, sous-entend que l'homosexualité au Maghreb n'existerait pas avant, n'aurait pas existé avant la colonisation, et que l'on aurait attendu que des colons occidentaux viennent nous apprendre comment. Viennent nous faire découvrir. Notre identité, enfin voilà, à ce niveau-là, quoi. Donc, et sans tenir compte des coutumes locales, d'accord. Donc ça, je ne sais pas s'il y a besoin. Bon, du coup, je vais continuer comme ça éclaircira. En effet, la société marocaine, donc ça, c'est journaliste. En effet, la société marocaine a ses propres codes culturels, notamment ses codes de conduite en matière de sexualité qui peuvent paraître complexes vu de l'Occident. Et ben je peux vous assurer que ça c'est moi qui parle venant de Tunisie. Et ben j'ai trouvé que les coutumes étaient vachement complexes aussi ici et en matière de sexualité aussi. Donc les jugements de valeur ethnocentriques n'arrangent rien. La sexualité légale est strictement régie par le mariage hétérosexuel. Donc note de moi-même comme si en France c'était pas le cas. Donc en France on sait bien la sexualité légale n'est pas hétéro, et donc là-bas au Maroc il rajoute quand même qu'elle est éventuellement polygame. La religion musulmane, donc ça c'est le journaliste, la religion musulmane légitime la règle interdite par la loi mais pas par les mœurs. La sexualité hors mariage, c'est des célibataires, des gens mariés hétéros et homos, est un sujet particulièrement tabou. Donc on sait bien qu'en France la sexualité n'est pas du tout régie par le catholicisme à la base, hein, que l'influence du catholicisme n'est pas là, que c'est bien quelque chose de par là-bas. Et du coup, en fait, ce qui m'énerve beaucoup dans ce commentaire-là, donc qui vient quand même d'une revue assez engagée, qui traite d'un sujet super intéressant, qui vraiment part d'une bonne intention, plutôt, je dirais, antiraciste, parce qu'il pourrait complètement s'en foutre de comment ça se passe pour les gays au Maroc. Et de voir en fait que du coup c'est, enfin il y a ce truc là de là-bas c'est particulièrement spécial, là-bas l'homosexualité c'est vachement c'est un truc qui est plus anormal au sens basique du terme, c'est-à-dire qui est plus un écart à la norme qu'en France, et comme si en fait, enfin comme si vraiment en France
la société française était hyper ouverte, tolérante, respectueuse des choix et construction de chacun, etc.
Et d'ailleurs, ça rejoint cette idée de... Oh merde, je sais plus.
Ouais. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est pas mal que, justement, ces stéréotypes en disant, oui, ailleurs, c'est affreux du point de vue des rapports hommes-femmes ou des lesbiens ou des homos, et ben des lesbiennes ou des homos, et ben c'est... ce serait que... Oui, là-bas c'est horrible, et chez nous ce serait pas dépassé, ça serait fini. Nous, le progrès, on serait une société civilisée, le progrès serait arrivé, l'égalité homme-femme serait chez nous, les homos et les lesbiennes et les trans seraient très libres de leurs allées et venues en France et ailleurs, ça serait l'horreur, parce que vous comprenez, ce sont des sociétés sous-développées, non civilisées. Enfin, c'est toute cette idéologie qui dit que, en gros, les sociétés évolueraient dans un sens qui seraient tous le même, vers une société parfaite comme la nôtre, et ça sous-tend vachement ça, pour moi, ces articles. C'est-à-dire, plutôt que de dire, voilà, il y a des problèmes pour les homos et pour l'égalité homme-femme dans différentes sociétés, et d'ailleurs, il y a des sociétés, on va dire, très éloignées culturellement des nôtres, où l'homosexualité ou le lesbianisme, où l'égalité homme-femme est bien plus tolérée, enfin, est bien plus avancée que nous, et enfin, avancée, on va dire, où il y a des choses super, quoi, et voilà, et nous, et c'est, enfin, cette idée de progrès aussi, qu'on serait une société la plus civilisée, avec le plus de liberté, ça gomme aussi toutes les luttes sociales qu'ont pu faire les femmes ou les homos depuis un ou deux siècles chez nous, quoi. Ça serait un progrès naturel, parce que vous comprenez, dans les gènes blancs, on serait quand même plus évolués, quoi.
Et puis aussi cette application du jugement avec deux poids deux mesures, donc tous les, enfin là en l'occurrence pour la petite citation, la citation que j'ai donnée, ce truc là que les gays marocains auraient pas droit aux mêmes critères d'évaluation de leur situation que les gays en France. Et du coup ça invisibilise aussi au passage et ça écrase les luttes qui se font dans les pays ex-colonisés, quoi.
Vous êtes bien sur Dégenré, une émission féministe tous les deuxième et quatrième mercredis du mois sur Radio Kaléidoscope. Alors, vous avez écouté un morceau qui est tiré de la bande originale du film Latchodrome de Tony Gatliffe, qui relate un peu l'épopée des tziganes, roms, tout ça. Et ce morceau, en fait, c'est une petite fille et sa grand-mère qui chantent dans un train qui part pour Auschwitz. Voilà, ça nous rappelle un peu comment les idéologies racistes, notamment vis-à-vis des gens du voyage, ont des conséquences régulièrement dans l'histoire, vraiment dramatiques, quoi.
Et donc voilà, en traitant ce sujet, on se rend compte à quel point il y aurait énormément de choses à dire. Donc on n'a pas la prétention de faire le tour de la question du tout ce soir. Et donc je pense que voilà, on réabordera ces sujets-là probablement dans d'autres émissions. Mais on avait quand même envie avant aussi la fin de cette émission de peut-être visibiliser aussi les luttes de femmes non blanches. Alors c'est pareil, hein, la catégorie non blanche, je pense que elle est pas terrible en termes, parce que ça voudrait dire c'est comme si blanc c'était la normalité, et puis après il y a les non blancs quoi. Mais voilà. Mais en tout cas, on a bien envie aussi de visibiliser ces luttes-là, parce que aussi au sein du féminisme, ben c'est vrai que déjà le féminisme on en entend peu parler dans la société en général, et alors quand quelques fois on en entend parler. Bon, en gros, hein, ça se résume un peu. Avant, il y a eu des suffragettes. Maintenant, il y a des chiennes de garde, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est toujours que c'est des femmes blanches. Et ce qui est complètement faux, justement parce que nous, on baigne dans des milieux féministes depuis des années. C'est vraiment pas du tout que le fait de personnes blanches. Mais voilà, Amélia, tu voulais plus parler de réflexion d'une femme noire américaine.
Oui. Ouais, je voulais un peu parler d'un livre d'Angela Davis, donc qui est une historienne et aussi une militante donc pour l'émancipation, la libération du peuple noir et aussi une féministe. Et qui a fait justement pas mal de parallèles entre et qui est aussi dans des luttes anticapitalistes entre sexisme, racisme et classe, enfin classe sociale. Et du coup, dans une brochure qui s'appelle justement Femmes, race et classe, elle reprend un peu au niveau historique les liens qu'il y a pu avoir soit entre les mouvements des femmes, les mouvements ouvriers. Ou par exemple déjà les mouvements abolitionnistes de l'esclavage aux États-Unis et ensuite les mouvements de libération des Noirs en général, et comment il y a pu avoir des alliances, mais aussi comme quoi le fait d'être d'une même classe opprimée ne faisait pas obligatoirement qu'on allait être les alliés d'autres classes opprimées. Et entre autres, elle critique pas mal aussi comment dans les mouvements féministes et dont les mouvements de suffragettes, elles ont pu complètement laisser de côté, invisibiliser les femmes noires. Et du coup, déjà, elle rappelle dans son livre la part importante qu'ont menée les femmes esclaves pour l'abolition de l'esclavage. Et aussi, elle rappelle que les esclaves, donc femmes noires, elles étaient en fait, elles subissaient déjà la même oppression et les mêmes tortures que les hommes, mais qu'une des différences, c'est qu'en plus d'être fouettées, mutilées, exploitées, etc., qu'une des armes qui était utilisée, c'était le viol. Et c'est un truc qui, souvent, qu'on retrouve dans les trucs de domination, c'est que en plus, les femmes, comme double domination, c'est toujours ce truc de domination sexuelle qui est censé, en fait, qui fait vachement aussi partie d'un truc d'appropriation qui est censé, elle les humilier et aussi, démoraliser leur mari parce que, le maître blanc s'approprie les femmes noires, qui est vraiment un double truc. Et en fait, elle montre aussi comment, avant même qu'il y ait le mouvement des suffragettes, il y a eu des clubs de femmes qui sont créés et pour l'abolition, et qu'à ce moment-là, pour du coup ces femmes qui étaient plutôt issues des classes bourgeoises, c'était aussi un moyen de indirectement lutter contre le patriarcat, parce que en faisant ces pétitions, des discours, etc., elles avaient à se défendre du fait de prendre la parole politiquement, même si à la base du coup c'était pas pour dans des trucs directs. Mais donc ensuite, j'ai un peu du mal parce que c'est un truc historique. Alors à rentrer à la radio, c'est pas évident. Mais ensuite, du coup, quand elle revient sur le mouvement des suffragettes, elle montre comment en fait, à un moment, il y a eu des alliances qui sont un peu à peu éliminées, où ça a plus été que des revendications par rapport au droit de vote, où à la fois les femmes noires elles étaient exclues ces revendications au droit de vote, parce qu'à un moment du coup les femmes blanches ont revendiqué le droit de vote que pour elles et pas pour les femmes noires aussi, et aussi par exemple les revendications, enfin il y a eu de moins en moins de liens avec les luttes ouvrières, où pour les femmes ouvrières le droit de vote c'était pas du tout leur priorité, au sens où elles c'était des conditions matérielles de survie, de salaire, etc., et qu'elles voyaient bien par exemple que leur frères, maris, etc., qui donc ouvriers, qui avaient le droit de vote, ça changeait rien à leur exploitation économique. Et ces revendications, elles ont aussi été complètement éliminées du discours, en fait, à un moment, quoi. Et où, c'est là qu'on peut voir que ce mouvement qui était soi-disant pour le vote des femmes, il a laissé tomber toute une partie. Et en gros, c'était l'émancipation quand même, surtout d'un certain type de femmes, même si c'est une généralisation, parce qu'il pouvait y avoir des exceptions chez certaines militantes, etc. Et un des trucs aussi qui m'a frappé dans ce bouquin, c'était comme les divisions racistes, ça a aussi empêché des alliances. Et notamment par rapport aux luttes contre le viol, les violences sexuelles. Et du coup, elle rappelle que, pas longtemps après la guerre de sécession et donc où l'esclavage a été aboli, la violence continuait, quoi. Ça changeait. Enfin, la situation des Noirs était quand même tout autant difficile, même s'ils étaient censés être libres. Mais bon, en gros, ils se retrouvaient exploités. Différemment, mais par aussi les capitalistes du Nord ou leurs anciens maîtres sudistes, quoi. Et où, en fait, là, les lynchages et les violences directes de lynchage de Noirs, c'était un truc vraiment qui était monnaie courante et qui se pratiquait moins avant, parce qu'une fois qu'ils étaient esclaves, les maîtres, ils allaient vachement plus pratiquer, par exemple, des sévices corporels, mais ils voulaient pas tuer leur esclave, quoi, parce que, Ouais, voilà, c'est ça, ils en avaient besoin. Et après, en fait, les vagues de violence et de lynchage étaient vraiment très courantes. Et à un moment, ce qui a été systématiquement en fait employé, c'était le stéréotype de dire que les Noirs étaient des violeurs. Et où, du coup, il y a eu plein de fausses accusations de viol. Donc, c'était à chaque fois, évidemment, des viols sur des femmes blanches. Et vraiment plein de... où à un moment, en fait, tous les lynchages quasiment d'hommes noirs étaient sur ce prétexte-là, que c'était des violeurs. Et c'était vraiment un stéréotype, hyper ancré aussi dans la tête des petites filles, ou des femmes blanches, où on leur répétait le violeur, c'est l'homme noir. Et ça a fait aussi qu'il y a plein de. Que ça a encore plus créé une division, au sens où, du coup, il y a même des personnes qui hésitaient à s'offusquer des lynchages ou à plus défendre les droits des Noirs, parce que, évidemment, qui va défendre un violeur, etc. Et ça faisait aussi que, à un moment, les femmes noires, elles n'ont pas pu ni se solidariser avec les femmes blanches qui les laissaient, qui, en gros, n'étaient pas du tout solidaires d'elles pour les luttes contre le viol, parce que... il y avait une idéologie aussi raciste dans les mouvements de femmes blanches, et qu'elles ne s'étaient pas du tout opposées à ces lynchages, et que ça ne leur permettait pas de, elles, dénoncer les viols qu'elles pouvaient subir. Ou en général, qu'à la limite, les femmes blanches, elles militaient, par exemple, pour pouvoir utiliser la dénonciation à la police et au juge, mais que c'était un truc qui n'était même pas permis aux femmes noires, qui en général, quand elles allaient dénoncer à la police, se faisaient violer une deuxième fois pour qu'on les fasse taire, en fait. Et du coup, ça a aussi créé divisions. Des divisions là où il y aurait eu des alliances, quoi, ces questions de racisme à l'intérieur du mouvement des femmes.
Et donc, ça, c'est donc une réalité, une réalité sociale. Donc, Angela Davis, elle dénonce. Mais il faut bien voir que, donc, plus aux États-Unis, mais il faut bien voir qu'en France, on est complètement dans ces mécanismes-là. Enfin, moi, il y a un travail très intéressant, quand même, que je voudrais vraiment citer ce soir, qui est celui de, entre autres, Nassira Guenif. Voilà. De Nassira Guenif, et qui, elle, justement, fait tout un tas de parallèles entre entre donc les mouvements féministes qui en même temps véhiculent aussi, enfin pour certains d'entre eux, hein, énormément de racisme, puisque donc à l'heure actuelle, et on l'a vu, voilà, on l'a largement vu dans les médias ces derniers mois, le mal incarné, alors vous prenez dans tous les sens du terme, c'est-à-dire le mec donc mauvais, méchant, machin, mais aussi ultra sexiste et dont souffrent les femmes en général dans toute la société, c'est un mec des banlieues. Donc, qui dit des banlieues dit d'origine. Là, on pourrait dire d'origine tout court, ce qui ferait référence à maghrébine. Et donc, voilà, donc ça c'est vraiment, à l'heure actuelle, bon, là, c'était l'image du violeur noir. À l'heure actuelle, c'est l'image de l'arabe des banlieues, quoi. Qui serait, voilà, une incarnation de toutes les horreurs. Et du coup, finalement, c'est comme si le raccourci, la caricature, c'est comme si le féminisme, à l'heure actuelle, il n'avait d'intérêt que pour lutter contre ces méchants arabes, comme si le sexisme, il n'était pas largement répandu dans la société française, à tous les niveaux, dans tous les milieux sociaux, etc. Donc vraiment, là, on peut vraiment voir ces parallèles-là et les travers dans lesquels on peut vite tomber quand on reste sur une lutte très sectorisée, quoi.
Ouais, et d'ailleurs, on voit par rapport au mouvement des femmes en dehors de la France, quoi, dans d'autres pays, comment en fait il y a certaines ONG ou organisations développementistes qui vont, parmi leurs programmes de développement, essayer de favoriser une égalité homme-femme à l'occidental et en calquant un espèce de modèle et de discours comme quoi, bien sûr, ailleurs, ça serait... Dans les autres pays, vous savez, là-bas, ça serait pire pour les femmes que chez nous, en oubliant sciemment ou pas d'ailleurs le fait qu'en France, c'est pas terrible pour les femmes non plus. Et y a, voilà, ça c'est pour moi des formes de racisme, quoi, de vouloir imposer finalement des formes soi-disant d'égalité homme-femme, alors que dans tous les pays, il y a des mouvements sociaux de femmes, ou dans presque tous les pays, et qui sont vachement intéressants et qui s'inscrivent vraiment dans le contexte social, culturel, économique du pays, quoi.
En fait, j'ai pas tout à fait compris ce que t'as dit, mais par contre, je veux bien te poser une petite question après la pause.
Oh bah oui, ça maintenant. Hein.
Né sous les tropiques, mon domaine, les dom-doms, jusqu'à ce qu'on m'emmène loin de mon sud-homme. J'ai fait un vol 8 ans pour devenir métropolitaine. Métropolitaine, banlieue, on n'a pas eu lieu. On nous a pas donné les moyens de quitter les lieux. Un studio pour une famille, deux parents, trois enfants. Quand je pense qu'en Guadeloupe, l'espace était si grand. Ma sœur aînée, il a fallu déménager. Maman, moi, elle cherchait travail pour nous manger. Réclame à la pâte pour qu'on soit décemment habillés. Plaque, maman, pour préserver notre dignité. C'est pour ça qu'elle se battait. Elle se battait pour que sa couleur soit pas salie. Elle savait que là-bas c'était la thermie. Ici le racisme jouait. On jouait avec des mômes qui nous insultaient. Je me battais. C'est là que j'ai pris conscience de la couleur que j'avais. Vous savez, vous savez. Qui j'en s'arrête pour nous. Bien que maman c'est moi. C'est où les sous-barons. Vous savez, vous savez. Les anti c'est patrie nous. Bien que maman c'est moi. C'est où respect pour nous. Vous savez, vous savez. Qui j'en s'arrête pour nous. Bien que maman c'est moi. C'est où les sous-barons. Vous savez, vous savez. Les anti c'est patrie. Je sais où sont mes souches. Je les touche du doigt et mes naissances quand je me couche. Les saveurs, les parfums de mon île me donnent l'eau à la bouche. Carlouche, négro, déformation du fait de la promiscuité. Péjoratif des jeunes, produits de cité. Souvent obligé de comparaître à cité. Mes parents sont un jour promis de quitter. Sunnite, délinquant, affaire de criminalité. Fracture familiale, un dégoston dans le fossé. Je suis pas offensé, on a connu l'adversité. Des siècles, nègre t'es nègre et puis fierté à mon nègre. Quand j'ai laissé ma cité, c'est là que j'ai vu les faits. Que ça fait d'être en minorité. Avant, je me fondais dans la masse. Dans la aujourd'hui, masse. Les seuls noirs que je croise ramassent la crasse. Plus que jamais, je reste fier de ma race. Où ça, où ça, qui j'en s'arrête pour nous. La femme, c'est moi, c'est où la sous-barons. Où ça, où ça, les Antilles, c'est pas pris nous. Ma mère élevait ma fille, que la vie lui sourit, qu'elle la prenne pas en sens interdit, qu'elle sache qu'on peut camoufler.
conscience de toute notre misère. J'ai perdu l'innocence de l'enfance, pourtant c'est clair. Pas à pas assurer son chemin, ouais. Je tiens, bien ou à bien, bâtir une voie pour la vie de loin. Et je veux qu'elle sache tolérer ce mélange qu'elle est. Et ce qu'elle est, c'est la vie en nouvelle forme qui renaît. Mélanina s'est mélangée pour pouvoir déranger. Ça a toujours dérangé, c'est une force d'être métissée. C'est ce qui fait évoluer toute mentalité. Mentalité à mon blanc, mentalité à mon ouais. Au jeu d'échecs, la vie, mon pion, la reine noire. Échec et mat, à moi la victoire. Ça, qui j'en s'arrête pour nous. Black Mama, c'est moi, c'est où Lex Subaru. Ça, les Antilles, c'est Patrie, nous. Black Mama, c'est moi, c'est où Respect pour nous. Ça, qui j'en s'arrête pour nous. Black Mama, c'est moi, c'est où Lex Subaru. Ça, les Antilles, c'est Patrie, nous. Black Mama, c'est moi, c'est où Respect pour nous.
Black Mama, c'est moi.
Black Mama, c'est moi, ouais.
Donc on reprend avec Dégenré, donc notre émission qui touche à sa fin, et on vient d'écouter un morceau qui s'appelle Black Mama d'une rappeuse dont je me souviens plus le nom, désolée.
Alors la fameuse question éludée avant la pause, je pense que notre conclusion, puisque notre émission touche à sa fin, je pense devrait éclaircir un peu pour les auditrices et auditeurs ce que voulait dire Nicolène par là. Et du coup, voilà. Donc, on parlait de cette idée d'invisibilisation, donc des luttes de femmes, donc qui seraient pas blanches en général. Et ça peut être le cas, en France, comme voilà, comme dans ce qui se passe dans le monde entier. Je crois que en France, moi, par exemple, j'avais bien envie de citer des luttes sociales importantes auxquelles j'ai participé ces dernières années, aux côtés de sans-papiers et de sans-papiers. Et la place des femmes là-dedans, enfin il y a des collectifs où les femmes elles s'organisaient entre elles, et au sein en tout cas de ces mouvements elles ont fait avancer aussi énormément de choses, et ça on n'en a quasiment pas entendu parler par exemple.
Oui, et pour moi aussi ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est bien plus intéressant en tant que féministe de se placer en soutien ou en solidarité avec d'autres luttes de femmes qui ont leur propre façon de faire, leur propre situation sociale, économique, culturelle, et de faire en sorte de voir qu'est-ce qu'on a de commun, qu'est-ce qu'on a de différent et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, et non pas de donner des leçons aux autres pays et aux autres luttes de femmes en disant nous, les occidentales, nous aurions la solution, la vérité, la voix, quoi.
Ouais, moi ça me faisait penser quelque chose qui s'est passé du coup pour le 8 mars dernier, donc cette fameuse journée des femmes, et donc bien institutionnel tout ça, et où je crois du coup c'est à Rennes où il y avait donc un forum donc sur une place publique, donc voilà, avec différentes associations féministe, mais je pense en tout cas assez général, et où il y avait une association de femmes musulmanes, donc je me rappelle plus le nom de l'association, qui voulait y participer, et où du coup ça leur a été refusé, soi-disant qu'elles pouvaient pas être féministes et qu'on acceptait aucune, enfin, et sous un critère que c'est parce que c'était une association religieuse en fait. Mais enfin, où c'était clairement un acte raciste, un moment de décider, où c'est après que des féministes blanches qui vont décider de qui est féministe ou pas. Et là, ces femmes-là, elles luttaient aussi pour les droits des femmes, mais elles, c'était pas des vraies féministes, donc elles n'avaient pas le droit d'y participer.
Oui, alors que toutes les femmes de confession catholique, je pense, qui participent à cette journée, là, il n'y a pas de problème. Ouais.
Et enfin, pour peut-être pour finir, moi je pense que par rapport à ces questions de racisme, c'est bien plus intéressant plutôt que de culpabiliser pour en se disant ah là là quelle histoire, et se retrouver complètement coincé là-dedans, ou alors de nier qu'on est raciste, de se questionner, de se dire en quoi nous avons des comportements racistes et comment on peut changer ça et construire une histoire commune avec une solidarité entre les luttes qui soit intéressante.
Et d'ailleurs, en fait, je pense que ça, c'est typiquement le genre de truc qui pourrait donner lieu à d'autres émissions, peut-être. Et parce que c'est... Enfin, il y a tout plein à travailler dessus et à dire et à diffuser, quoi.
Voilà, comme je crois que moi, ma conclusion, c'est de dire que ces questions de racisme, notamment latent, c'est comme le féminisme, ça reste, c'est lutte contre ce racisme latent, c'est comme le féminisme, c'est des luttes qui sont toujours d'actualité parce que notre société, elle en est imprégnée, quoi.
Voilà, alors avant de vous quitter, on va vous donner quelques infos pour les 15 prochains jours. Alors déjà le mardi 7 février à 19h au local autogéré, il y a une bouffe féministe. C'est-à-dire que tous les premiers mardis du mois, il y a une bouffe qui est organisée au local autogéré.
Tu as l'adresse par hasard ?
7 rue Pierre Dupont.
Ouais, merci. Voilà, et ce sont des bouffes qui sont ouvertes à toutes les femmes qui ont envie de se rencontrer. Il faut amener quelque chose à manger. Bon, végétarien, c'est mieux, comme ça tout le monde peut goûter à tout. Et voilà, et le but de ces repas, c'est de se rencontrer et de s'informer de l'actualité féministe sur Grenoble et aux environs aussi. Et le deuxième événement que je voulais annoncer, c'est le samedi 4 février à 16h. Il y a une journée porte ouverte au squat de la Mazurka, donc c'est la première journée. Le squat de la Mazurka, c'est 7 rue de la Gaîté à Fontaine, c'est très facile à trouver. Et
ça dépend pour qui.
Et bon, bref, le samedi 4 février, il y a une ouverture du hangar avec... une zone de gratuité où vous pouvez prendre et amener des habits gratuitement. Il y a un infokiosque aussi pour avoir plein d'informations. Et il y aura un bal, voilà, vers 17h, voilà, pour se réchauffer. Et ça va être très sympa.
Voilà, donc on se retrouve, nous, dans 15 jours avec, voilà, avec des invités aussi, grenobloises, parce que l'idée, voilà, c'est aussi de donner la parole à plein de femmes, voilà.
Bonne soirée. Oh, yes, I think it's a montre.